Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Bien, bonjour. Oui, notre rendez-vous hebdomadaire dans la démarche un peu spéciale qu'on propose ici à cette radio du mieux-être. Parce que, en fait, la démarche ésotérique vient de la devise « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors, bien se connaître soi-même, c'est par des expériences qu'on fait souvent avec les autres. J'allais presque dire en compétition avec les autres. Dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de compétition. Et le thème d'aujourd'hui va porter sur l'école Jedi, l'enseignement des chevaliers Jedi. Eh oui, vous reconnaissez la musique? La guerre des étoiles. Star Wars en anglais. Évidemment, c'est étrange de voir que, en anglais, le titre est à l'envers de ce qu'on dit en français. C'est Star Wars, avec le Z à la fin de Wars, pour les guerres de l'étoile. Alors qu'en français, c'est la guerre des étoiles. Quand on sait que le créateur de Star Wars, George Lucas, est un Américain, donc de langue anglaise, mais pour lui, ça représente bien la réalité. C'est Star, l'étoile, qui fait beaucoup de guerres. Que ce soit en Irak, en Afghanistan, au Vietnam, on se comprend, là? Alors que les francophones subissent les étoiles du Star Spangled Banner qui aboutissent un peu partout sur la planète et qui décident de faire la guerre des étoiles. Ben oui. Et la série Star Wars, La guerre des étoiles, dans les années 80-90, a vraiment marqué toute une génération. Vous savez que dans le dernier recensement au Canada, on a répertorié tout près de 30 000 personnes qui disent avoir comme religion la religion Jedi. En Australie, même chose. En Angleterre, même chose. Et pourtant, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas eu de messie qui est venu enseigner la bonne parole. Sauf que la saga, on va l'appeler comme ça, là. 6 films. D'ailleurs, ce qui est étrange, ces 6 films-là ont commencé par l'épisode numéro 4, 5, 6. Donc, on connaissait la fin avant même de connaître le début. Êtes-vous quelqu'un qui aime connaître la fin d'un film avant d'aller le voir, ou vous préférez garder le secret jusqu'à la dernière seconde? Mais moi, je dois vous avouer que je préfère connaître la fin d'un film. J'aime beaucoup connaître la fin d'un film. De la même manière qu'on dit dans l'initiation, souvent les jeunes, à un moment donné, ils voudraient connaître leur plan de vie. Alors, en ésotérisme, on connaît la fameuse tradition des documents akashiques qui nous permettent de connaître notre plan de vie et de connaître la fin, de comment ça va se terminer, tout ça. L'autre jour, il y avait une partie de football, et moi, je suis un fan des Alouettes de Montréal, et quand j'ai appris que les Alouettes avaient gagné 50-10, je peux vous dire que j'ai regardé la reprise avec grand plaisir. Parce qu'en fait, dans la tradition, l'important n'est pas tellement le but, mais le chemin à suivre. Et quand on connaît déjà qu'il y aura un but de succès, les Alouettes ont vraiment gagné, écrasé leur adversaire, mais c'était de voir comment ils ont procédé. Et à travers ce cheminement-là, on apprend plein de choses sur l'être. Alors, dans le fond, ce n'est pas la fin qui compte, comme dirait le proverbe, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, c'est les moyens qui sont intéressants à observer et le choix délibéré des moyens qu'on prend. Voyez-vous, dans l'école Jedi dont on parle aujourd'hui avec la guerre des étoiles, ça nous ramène à la tradition initiatique des écoles des mystères d'autrefois qui étaient en Égypte, enseignées à des jeunes. Comme dans La guerre des étoiles, ben, il faut commencer jeune. Hein. C'est bien difficile de se dire que quelqu'un qui est rendu âgé va s'intéresser à suivre un cheminement. Il est déjà abouti quelque part, là. Il peut avoir des bons conseils, il peut prendre des expériences originales. Mais toute sa vie est de toute façon une école, l'école de la vie, comme on dit. Au cours de l'émission aujourd'hui, on a traitera pas spécifiquement des épisodes de la guerre des étoiles, parce que là, on tomberait dans la lettre. Hein? La lettre tue, l'esprit vivifie. Le sens de l'initiation de l'adepte qui deviendra un apprenti, qu'on appelle dans la guerre des étoiles le Padawan, pour devenir un jour maître, et même devenir grand maître du grand conseil des Jedi. Hein, vous connaissez l'histoire. Si je vous voyais dans une salle, je vous dirais, levez la main pour me dire si vous avez suivi toute la série, les 6 épisodes. Et vous savez qu'il y a un cadeau qui s'en vient pour l'année prochaine. Eh oui, un 7e épisode s'en vient, qui va être produit par les studios de Walt Disney, puisqu'ils ont acheté les droits, ils ont l'intention d'aller encore plus loin. Ça va même être une femme qui va être la héroïne Jedi dans le 7e épisode, qui suit la trame de George Lucas. George Lucas prétend que lorsqu'il était jeune, vers 13-14 ans, dans sa tête se créait déjà toute cette saga, toute cette histoire épique, qui a débuté, d'après ce qu'on lit dans le premier épisode, ou plutôt le 4e épisode, il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine. A long long time ago, in a galaxy far far away. Ça vous rappelle, hein? Et les épisodes qui ont commencé par l'épisode numéro 3, le numéro 4, c'est-à-dire le Nouvel Espoir, The New Hope. C'était la rencontre avec Obi-Wan Kenobi, le sage. Le sage qui est habillé avec une tunique et qui personnifie presque le Christ. Il s'est retiré, il n'a pas l'intention de remonter aux barricades. On connaît ce qui s'est passé dans les premiers épisodes qu'on n'avait pas encore vus. Mais il décide donc d'aider Luke Skywalker, le fameux jeune Luke Skywalker, Luke Skywalker. Quand je le dis vite comme ça, Luke Skywalker, luxe, la lumière, on mesure le degré de luminosité au luxe. Un luxe correspond à une chandelle allumée, deux luxes, deux chandelles, cinq luxes, cinq chandelles. Mais Luke Skywalker, ça veut dire bien sûr le marcheur dans le ciel, porteur de lumière. Et vous savez que le porteur de lumière, c'est Lucifer. C'est la traduction intégrale de Luciferero, qui veut dire le porteur de lumière. Et il fait partie, Luke Skywalker, de la rébellion. Oh, il n'est donc pas d'accord avec l'ordre établi. Appelons-le le nouvel ordre cosmique plutôt que le nouvel ordre mondial, mais il est en rébellion. Et on disait, Obi-Wan Kenobi, si on le dit vite en anglais, Obi-Wan Kenobi, you be one, can you be? You be one, tu es un. Can you be? Peux-tu l'être? Oh là! Et vous savez la devise des mousquetaires, tous pour un pour tous. Ça fait partie de l'éthique d'un chevalier, car les Jedi sont d'abord et avant tout des chevaliers Jedi. Et là, il faut comprendre que ce ne sont donc pas des guerriers ou des mercenaires payés pour aller tuer puis se battre. Ce sont des êtres qui ont une grande discipline physique. Ils sont capables de se battre, évidemment, mais ils sont aussi missionnés par une vocation, par un appel d'un idéal. Et cette qualité leur donne le surnom d'être des êtres sans peur et sans reproche. Ils sont au service de la veuve et de l'orphelin. Vous savez, quand on pense aux chevaliers, moi je pense souvent aux chevaliers templiers. Bon, ben le logo des chevaliers templiers, c'est deux cavaliers sur la même monture. Un qui représente le moine, le mystique, et l'autre qui représente réellement le guerrier, celui qui porte l'épée. Alors, on voit bien que la saga de la guerre des étoiles est là pour nous enseigner quelque chose à un autre niveau que strictement l'aspect spectaculaire, fantastique, le Space Odyssey. C'est vraiment un enseignement initiatique. C'est pas pour rien que des gens ont décidé d'en faire leur religion, d'être Jedi. Et moi, j'ai enseigné dans mon école Jedi, on peut l'appeler comme ça, je l'appelais comme ça d'ailleurs, pendant de nombreuses années, presque 10 ans de temps. Je recevais des gens chez moi à Mont-Saint-Hilaire où j'ai enseigné des techniques qui se rapprochent de l'enseignement initiatique de base qu'on retrouve dans les temples anciens d'initiation, et aussi très proche des enseignements des arts martiaux. Pourquoi? Parce que les arts martiaux, on dit déjà des arts. Comme la chevalerie est un art, ben les arts martiaux d'inspiration orientale en général, que ce soit de Corée, Japon et tout, on les appelle des arts martiaux. Donc, les gens qui pratiquent les arts martiaux, ben, ce sont des artistes. Et, vous savez, Pavlov, on en a parlé de Pavlov la dernière fois. Ben oui, celui qui disait qu'on pouvait faire réagir un chien simplement sonner une cloche parce qu'on l'avait habitué à recevoir sa portion, sa nourriture, en sonnant une cloche. Et un bon jour, on ne lui donne pas de nourriture, mais on sonne la cloche et on s'aperçoit que le chien, il salive, il bave, parce qu'il a faim, il sent que la nourriture s'en vient, même s'il n'y en a pas, pour lui, le son de la cloche. Mais Pavlov avait dit, un être humain accompli, c'est un artiste. Ah, alors voilà le chemin qu'on va suivre aujourd'hui dans l'approche qu'on avait de dire l'école Jedi, la guerre des étoiles, les arts martiaux. Après la pause, on va faire la rencontre de quelqu'un qui, depuis de très nombreuses années, pratique des arts martiaux. Et aujourd'hui, il est monté à un stade où il peut aider les autres à s'auto-défendre. Vous savez, les arts d'auto-défense. Alors, c'est un homme du Québec qui enseigne les arts d'auto-défense à des femmes. Ça prend donc une grande qualité d'être, d'intégrité et de compétence. Ça va être notre référence cette semaine pour élaborer sur est-ce que les films La Guerre des Étoiles n'ont pas eu un but pédagogique dans la population, dans la jeunesse qui se forme et qui a donné, je ne sais pas moi, une pulsion à vouloir se prendre en main et devenir quelqu'un de propre, d'intègre, de compétent, au service de la veuve et de l'orphelin. De retour à Ésotérisme expérimental, le thème d'aujourd'hui, l'école Jedi. Mais en fait, vous savez, c'est pour la formation de l'adepte, du profane, qui va monter dans l'initiation pour apprendre les grands secrets de l'être et les techniques qui viennent avec. Je me demande, avec mon invité d'aujourd'hui, qui est un spécialiste des arts martiaux, qu'il pratique depuis longtemps, s'il n'y a pas un rapprochement à faire réellement entre l'école Jedi et les arts martiaux. Bonjour, bonsoir, Jean-François Poulain.
Bonsoir, Richard-Laine, ça va, ou bonjour, Richard-Laine, ça va bien?
Ben oui, ça va très bien. Il faut savoir que tu es l'instigateur des fameux vidéos Randvia qu'on enregistre pour mon émission Rendez-vous avec le public tous les samedis soirs de 8h à 9h30 et à peine une demi-heure plus tard, de 21h30 à 22h pour se préparer à l'émission qui est ici, sur cette station de radio, en reprise, le samedi soir, de 22h à 23h, et qui est à l'origine diffusée le vendredi de 18h à 19h.
Et ça fait trois ans qu'on s'amuse bien à faire ça.
Ah oui, avec le public et avec ligne ouverte en plus, hein, les gens peuvent nous téléphoner, passer leurs commentaires. Ça viendra peut-être ici aussi à la station, du direct à un moment donné. Mais je te pose une question, Jean-François, c'est vrai, hein, t'es dans les arts martiaux, tu pratiques ça depuis longtemps.
Oui. Très longtemps, ça fait ça va bientôt faire 10 ans que je fais ça.
Ah oui.
Puis je te dirais que c'est le fait que j'ai écouté Richard Glenn quand j'étais adolescent n'est pas complètement non relié à ça, parce que vraiment, il y a une démarche spirituelle dans les arts martiaux, que je le savais quand j'ai cherché mon dojo. J'en ai visité plusieurs avant de trouver celui que j'ai trouvé là. Puis j'ai senti vraiment que le sensei, le maître, hein, le professeur, avait une démarche comme ça. Puis il m'a suivi à travers cette démarche-là aussi. Autant c'est très physique, ça maintient en bonne forme. On fait ça 3 fois par semaine quand même, à raison de 2 heures par soir. Donc c'est très intense physiquement, mais pour ceux qui le veulent, il y a une grosse partie spirituelle. Il y a une grosse partie de développement de soi, comme tu disais tout à l'heure dans la première partie de l'émission.
Est-ce que le maître vous donne des enseignements dans ce sens-là, ou s'il se contente surtout de l'exemple et de la discipline qui impose, si on veut, un certain cheminement à l'adepte?
Comme tout, hein, il y a plein de messages qui sont passés. Il y en a qui les reçoivent, puis il y en a qui ça passe par-dessus la tête. Tu peux très bien faire une démarche d'art martial et ne jamais travailler sur ton côté spirituel. Moi, j'ai travaillé les deux en même temps. Ça m'a beaucoup servi. C'est quelque chose, après, qui t'influence même dans tous les aspects de ta vie. la combativité, l'agressivité, le faire la nuance entre les deux, ça te sert dans des entrevues, ça te sert dans tes relations humaines avec les autres. C'est à tous les niveaux. Si tu acceptes de le laisser entrer en toi aussi, là. Mais ça peut être simplement un gros défoulement, une période d'art martial. Quoique, plus tu montes en ceinture, plus tu montes dans les grades, ça devient très interrelié quand même.
Parlons-en des grades, parce que je disais tantôt que dans la guerre des étoiles, là, Star Wars, t'es un adepte, un padawan, avant de devenir un Jedi, un maître Jedi. Hein. Je pense que des ceintures signifient réellement quelque chose, on le sait. Autant pour le judo, le karaté, toi, tu es dans quelle discipline?
Moi, je fais jiu-jitsu. En fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup à la source des arts martiaux japonais, qui est une cohésion. Hein. C'est vraiment un mixte entre le karaté, l'aïkido et le judo. Mm-hmm. Puis c'est pas tous les sports de combat comme ça, c'est pas tous les arts martiaux qui ont des ceintures. L'aïkido et tes ceintures blanches très similaires à être un Jedi, où tu vas apprendre jusqu'à temps que, boum, à un moment donné, t'es devenu un maître. Donc, aïkido, bon, il y a des petits bâtons hein, qui mettent sur le mur, là, qui sont un peu l'équivalent de ceinture, mais en principe, ils sont ceinture blanche, et un jour, ils deviennent ceinture noire. Ils deviennent maître, ouais. Et après, ils accumulent d'autres degrés au niveau de.
Est-ce que c'est l'aïkido là, qui ont des bâtons qui
entre
se frappent sur les épaules?
Entre autres.
Ça me fait penser un peu au sabre laser. Hein?
Oui.
Tu sais, dans Star
Wars, il y a une forme d'art martiaux. Je pense que c'est le kendo qui est orienté à l'utilisation du bâton comme ça.
Oui, le kendo.
Le kendo.
Ouais.
Mais l'aïkido en a aussi certaines formes. Il y a des variantes. Hein? Même nous, en jiu-jitsu, on est un dojo à Laval. Il y en a plusieurs autres au Québec. Peut-être qu'il y en a quatre au Québec là, dans cette forme-là de jiu-jitsu. Il y en a un en Gaspésie. Chacun son maître, chacun son enseignement. Chacun sa démarche.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que j'ai cherché beaucoup le bon maître, parce que lui, il transmettait une petite partie de spiritualité, de toute de tout ce que les Japonais transigent aussi hein, dans cet art-là.
Oui.
Les samouraïs, tout ça, l'art de combat, l'éthique, comme tu mentionnais dans la première partie de l'émission, c'est super important.
Je vais revenir sur la couleur des ceintures parce que je vais parler de la couleur des sabres laser. Les gens ont peut-être remarqué que dans Star Wars, il y a des sabres laser, le rayon est rouge, d'autres est vert, d'autres est bleu. Il y a même le mauve, il y a le bleu. Alors, il y a un sens derrière tout ça. Pour les ceintures, il y a un sens?
Il y a un sens. Pour ceux qui ont la radio en image, j'ai devant moi, toutes les feuilles qui nous donne pour chacun de nos passages.
Et t'as apporté même toutes tes ceintures.
J'ai amené toutes mes ceintures qui sont sur mes genoux.
Ben oui,
on est filmé en même temps, oui. Alors, j'ai toutes les ceintures qui me sont données à chaque passage. Puis tu peux voir, c'est ce qu'on disait un petit peu aussi hein, avant l'émission, notre dojo charge minimum pour chacun des passages. Et c'est ce qui fait qu'on se sent
privilégié. Chargé en argent.
Chargé en argent, hein, parce que des dojos, c'est des dojos très commerciaux maintenant, puis qui vont te donner des ceintures. Tu vas passer de la blanche à la blanche jaune avec des petits rayures, tu sais, blanche avec des petits rayures jaunes.
Oui.
C'est des passages, regarde, on te charge tel montant pour passer au niveau supérieur. C'est un peu ludique aussi pour les enfants. Mais moi, j'ai cherché ce dojo-là pas parce qu'il était cheap, puis qu'il coûtait pas cher, mais parce que le fait qu'il ne chargeait pas, puis qui nous fait attendre jusqu'à ce qu'on soit prêt à passer au prochain grade.
Mérité.
Moi, ceinture noire, parce que j'ai eu des blessures aux genoux, je ne l'ai pas passé encore. Mais il y a encore des choses que je ne maîtrise pas. Il y a un jeune homme dans notre cours qui se dit, lui, il n'est pas blessé, il est plus en forme. Il a commencé plus tôt, évidemment. Il serait sur le point de passer à ceinture noire, mais il n'est pas invité. Parce qu'il y a une démarche, parce qu'il y a un endroit dans sa tête, dans son développement personnel, dans cette petite colère qui garde en lui le côté noir de la force, qui fait qu'il n'est pas invité encore à passer. On lui dit même pas c'est quoi.
Ben, c'est respectable. Dans un sens, ça honore même l'école dans laquelle tu es.
Oui.
Parce que, justement, on profane pas là, le sacré. Mm. On donne le temps aux gens. Est-ce que tu peux nous donner le sens des couleurs?
Tu vois, on commence à blanc. Puis à chaque grade est associé différents principes. Comme, par exemple, blanc, c'est la terre. La terre, c'est le respect, la stabilité, la mobilité, la réceptivité, la concentration. Jaune, c'est l'eau. Fluidité, équilibre, distance, rythme, vitesse. Et c'est drôle, hein, parce que on les passe, on regarde ce qui est écrit, et ça correspond complètement aux choses qu'on vit à ce moment-là.
Ah, oui.
C'est pas anodin, là. C'est pas non plus du bourrage de crâne, parce que des fois où je les avais pas lus, je reviens 6 mois plus tard après avoir commencé, par exemple, la ceinture orange, où on dit que c'est le bois, la puissance, la souplesse, contrôler ton centre, ton équilibre, ton contrôle, ta confiance en toi. Parce qu'en orange, tu commences à te dire, waouh, ce que je connais, c'est puissant. Je peux faire mal à des gens, mais je veux pas faire mal à des gens. Alors ça, c'est le moment où ça commence à te rentrer dans la tête, à te jouer dans la tête un peu. Tu dis, oui, si je suis sur l'autoroute, quelqu'un fait de l'intimidation, je pourrais lui faire. Mais veux-tu lui faire mal? Non, je veux pas. Non, mais tu sais, c'est la ceinture. Ouais. Chaque ceinture vient avec son questionnement, son évolution. Après ça, t'as la verte, qui est le feu, bizarrement. La couleur correspond pas. l'harmonie, non-résistance, l'union des énergies, sensation et passion. Et ça correspond encore là, complètement, là, t'es rendu à peu près à troisième, quatrième année, parce que quand même, tu peux pas passer une ceinture sans qu'il y ait au moins un minimum de cours ou de temps qui est passé. Après ça, c'est la bleue, c'est le métal. La volonté, l'endurance, l'humilité, la patience, l'initiative et la persévérance. Et puis moi, où je suis rendu, c'est l'air. C'est la sincérité, la pureté, la perception, le souffle et le temps.
Quelle couleur?
Marron.
Marron. C'est là où c'est je suis curieux, moi, je est-ce qu'ils ont la pigmentation des yeux comme nous autres? Parce que le vert, ça devrait être le bois.
Oui, c'est vrai.
Le brun devrait être la terre.
C'est vrai. Et dans certains arts martiaux, ils sont inversés. Ils sont dans d'autres ordres aussi.
Ah,
là.
Oui, okay.
Les ordres des ceintures, il y a un dojo avec qui on partage les locaux. L'ordre des ceintures, la marron n'est pas la plus élevée. Je pense que c'est la troisième ou la deuxième.
OK. Mais moi, en judo, c'était la plus haute aussi.
C'était la plus haute aussi. Oui, notre calcul des ceintures est similaire au judo, effectivement, oui. Mais c'est ça. Fait que c'est le principe, c'est le cheminement, c'est ça à travers quoi ça t'amène. Mais ces éléments-là, ces principes-là, c'est pas tout le monde qui choisisse d'y travailler. Moi, à un moment donné, il y a même un exercice que mon sensei m'a fait faire, le cri primal, hein, le kiai. Qui m'a dit extériorise-le, puis fais-le en frappant sur une personne. Alors, un exercice, évidemment, on se frappe pas de vrai. J'avais comme perdu le contrôle. J'avais été dans un côté noir de moi-même. Puis je l'avais dit au sensei, je dis, je suis pas confortable avec ça. Il a dit, c'est bon, sois patient, il y a quelque chose d'autre qui va venir s'installer. Puis il m'avait fait travailler là-dessus plusieurs mois plus tard, mis en contact avec une ceinture noire, on a pratiqué certaines choses, et là, j'ai senti, je faisais un cri blanc. Je faisais un cri, un kiai qui était neutre, qui était terrifiant pour la personne devant moi. Puis le professeur qui était dans une autre salle m'a entendu, il est venu me voir, il a fait un petit signe de la tête, puis il est reparti. Il y a carrément un côté, là, tu vois.
En voulant dire qu'il
ouais,
trouvait ça très bien.
Oui, tu viens de comprendre quelque chose, t'es passé du côté obscur, tu l'as expérimenté, puis maintenant t'es dans d'autres choses. Et ça, c'est pas tous les dojos qui font ça, là. Si on peut trouver un dojo comme ça, on s'y accroche.
Oh, ben, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui vont téléphoner à la station pour savoir quel dojo samedi au Vidéo Radio. Tu vas être mon invité, tu vas être ici en studio.
On en parle encore. Oui.
Qu'on en parle avec le public en direct. Alors, vous nous regardez sur le canal Orandia TV tous les samedis soirs de 8h à 9h30. Et là, Jean-François Poulain va être l'invité aussi. Puis, vous pourrez le voir, puis voir les ceintures et tout ça. Mais
il faut trouver son dojo avec son cœur. Moi, j'ai trouvé celui-là parce qu'il correspondait à moi au moment où j'ai cherché un dojo il y a 9 ans. Mais on le trouve avec son cœur au moment où on... Puis on peut changer. Après, on n'est pas pris avec un dojo. Là. C'est pas une secte.
Je te demande, est-ce que tu n'es pas déçu de ne pas avoir été encore invité à passer ta ceinture noire?
Non. Pas au niveau... Pas quand tu es marron. Peut-être à orange, tu dis, oh, j'aimerais ça passer ma verte. Ou à blanc, à jaune, oui. À marron, non, regarde, quand je vais être prêt, je vais être prêt. Je vais le savoir en même temps, là. Il y a vraiment un côté spirituel qui est dans les deux sens. Si je suis pas invité, si le jeune homme dont je parlais tout à l'heure sent qu'il devrait être invité, c'est peut-être qu'il y a un malaise, là. Il est peut-être pas vraiment prêt puisque lui pense qu'il l'est. Il y a quelque chose là-dedans, c'est, ça doit pas, tu le sais, tu le sens quand t'es prêt.
Ah, tu te souviens que dans la série La Guerre des Étoiles, dans l'épisode le premier, le petit Anakin Skywalker qui est choisi par Qui-Gon Jinn, il est amené au Grand Conseil. Lui aussi, il est impatient puis il veut aller à l'école Jedi et puis devenir un Jedi, alors qu'on dit qu'à 9 ans, il est déjà trop vieux.
Ouais.
La raison, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment pourquoi à 9 ans. Écoute un peu, on peut commencer à apprendre le piano à 9 ans. Oui, oui, mais il y a une chose. C'est que dans l'école Jedi, ce qui est la valeur qui est mise en évidence, plus encore que dans les arts martiaux, j'allais dire physiques, dont tu parles aussi l'aspect psychique, l'aspect psychologique, la démarche spirituelle, c'est les pouvoirs psioniques, c'est-à-dire avoir un contrôle sur des forces invisibles. Et c'est là la force, justement, le côté obscur et tout ça. Et lui, à 9 ans, on sait qu'un enfant ordinaire de 9 ans, il est déjà passé l'âge de raison. Là. Il est dans l'âge de raison, il raisonne, il est capable de se dire « ça n'a pas de bon sens, je ne pourrais pas faire ça ». Quand on prend deux cuillères exactement semblables, puis qu'on le fait tenir une des deux cuillères, on voit que le manche va bouger simplement à passer la main au-dessus parce que tu aimes la cuillère et ça va permettre au manche de lentement ramollir. Et quand tu es trop rationnel, tu as dépassé l'âge de raison, ça se peut pas. Dans Star Wars, la guerre des étoiles, dans l'épisode où Yoda est à côté de Luke Skywalker, il doit faire sortir le vaisseau, le X-Wing, du fond d'un marécage. il arrive pas là. Puis Yoda il lui dit, concentre-toi, ta concentration crée ta réalité. Puis il arrive pas. Yoda, le plus petit personnage de Star Wars, là, la guerre des étoiles, c'est Yoda. Et Yoda, ben, c'est le Yod, la plus petite lettre de la langue hébraïque, qui est grosse comme un apostrophe, d'un zère, là, comme un apostrophe. Et Yoda réussit à sortir le vaisseau des marécages. Et là, Luke Skywalker, il dit, « J'en crois pas mes yeux. » Yoda lui dit, « C'est exactement pour ça que tu réussissais pas. »
Parce que tu y croyais pas.
Tu y croyais pas parce que t'es mental.
Absolument.
T'es rendu rationnel, t'es rendu trop vieux.
C'est tellement les arts martiaux, ça.
Ah oui?
Mais tellement, parce que d'abord, tu vois des maîtres comme Yoda, hein, qui est très vieux dans le film déjà,
ouais,
qui maîtrise l'art. C'est parce que c'est un art. Et c'est pas comme un sport où joueur de tennis, tu vas atteindre ton maximum à 35 ans. Tu peux être à 68 ans, puis très bien maîtriser ton art, puis sacrer une volée, excuse-moi l'expression, mais à n'importe qui, plus jeune, parce que c'est vraiment une question d'expérience.
Mm-hmm.
C'est vraiment une question d'ego, d'agressivité aussi, des choses qui... Tu passes pas au-delà de certaines ceintures, c'est encore trop d'ego, trop d'agressivité. Mm-hmm. Ça passe juste pas, ça fonctionne pas.
Après la pause, on va avoir l'occasion de se parler de certains exercices. Et j'imagine que vous devez être intrigué par le fait que les rayons des sabres laser sont de différentes couleurs selon les personnes qui les tiennent, qui les portent. Parce que tout ça est mu par, évidemment, du laser, vous le savez. Quand on parle des Blu-ray maintenant, c'est que le rayon est bleu. Avant, c'était rouge. Dans les discos laser là, qu'on écoutait de la musique sur des CD, là, c'était un rayon rouge. Maintenant, c'est un rayon bleu. Et pourquoi? Et parce qu'il y a un cristal qui est utilisé. Et le cristal est utilisé au centre de l'épée laser. Mm. Et ce cristal-là est donné à l'enfant quand il est tout jeune, quand il entre dans l'école Jedi. Il doit même le porter dans sa main et ne le laisser toucher par personne.
C'est son cristal âme.
Son cristal, oui. On se retrouve après la pause. Vous reconnaissez la musique, bien sûr, La guerre des étoiles. À Ésotérisme expérimental, avec Richard Glenn, nous avons ici Jean-François Poulain, qui enseigne les arts martiaux, on peut dire que tu les enseignes à des femmes là, pour l'autodéfense.
Oui, je pourrais, en ceinture marron, commencer à enseigner sans prétention, là. Mais c'est moi qui ai fait le choix pour l'instant de ne pas enseigner. On n'est pas des Jedi, justement, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un Padawan. Donc, on peut quand même garder ça convient. Moi, j'ai choisi, ils nous le demandent au début, est-ce que vous voulez enseigner? Après mes blessures au genou, je me suis dit oui, probablement. Maintenant, j'aimerais montrer un style, enseigner. Là.
Est-ce que c'est des blessures que tu as eues lors des exercices?
Ah oui.
Ah ouais.
Ah ouais.
Oh là, mais violent.
À chaque non, en fait, je pense que puis c'est ce que j'aimerais enseigner, on amène dans un dojo ce que l'on est, ce qu'on a vécu dans la journée, dans l'année, dans sa vie, on amène un bagage.
C'est pas du théâtre.
C'est pas du théâtre du tout. Non, c'est au contraire, mais tout est révélé. Parce que quelqu'un qui vient sur un tatami, tout le monde est habillé identique, hein, il y a comme quand même un protocole, on salue, un jeune de 14 ans est face à un gars de 47 ans, moi je lui dis tu, lui me dit tu, mais le respect est égal.
Ah ouais?
Et ce protocole-là fait que on est habillé en blanc. Dans notre dojo, c'est des gis de des costumes de karaté, de judo, pardon.
Oui, oui.
Et on amène notre journée, des fois, on amène notre semaine, nos frustrations. Mes genoux, c'est des choses à moi que j'ai amenées sur le tatami. Je me suis blessé, moi, à cause de moi. C'est quelqu'un d'autre dans un des cas qui m'a fait une blessure, mais c'est moi qui étais dans une disposition de me faire blesser. Ça, c'est clair, c'est pas... On me l'a pas mis dans la tête.
Parle-moi donc justement du type d'exercice que vous faites.
Il y a une grosse partie, c'est du conditionnement physique normal qu'on peut faire dans n'importe quel gym, là, des push-ups, des trucs comme ça. Je pense se mettre en forme, avoir chaud, se réchauffer un peu.
Ouais.
Après, il y a une partie éducative où on va vraiment apprendre. Nous, notre dojo est très fréquenté par des policiers aussi. Donc, comme l'école Jedi, c'est aussi, ben, pas la tienne, mais celle du film, c'est une pratique qui est très orientée vers l'autodéfense. Donc, on peut avoir à utiliser, on va voir souvent une technique dans sa beauté, dans sa pureté, dans son côté artistique, puis après ça, dire, mais si tu voulais la faire comme ça, le bras casserait. Et ça, c'est si vous avez à l'appliquer en temps d'autodéfense, si vous avez 5 personnes devant vous, vous pouvez avoir à casser le bras de la première pour pouvoir vous occuper, puis pas que lui, il revienne pas dans votre dos après. Ce côté très dur est là. Quand on regarde des combats dans les films de Star Wars, c'est sans merci non plus, là.
Bon, oui,
ça tue à tour de bras, là. Puis les Jedi aussi, ça coupe des bras, puis il n'y a pas de pitié dans un combat de samouraï.
Ben, ils ont des ennemis jurés, c'est les Sith.
Oui.
Hein, c'est Sidious Sith, puis ouais. c'est comme une tribu qui est, lui, du côté de la force noire, sombre, dark side of the force.
Et tu sais qu'il y a des dojos qui sont un peu comme ça, hein. Il y a des dojos qu'on m'a dit, enfin je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais expérimenté, mais c'est pour passer ta ceinture noire, tu vas aller dans un bar, tu vas sacrer une volée à 6 gros gars. que le sensei va t'indiquer qui allait frapper. Je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être pour dire que oui, effectivement, peut-être un côté. T'as le sensei que tu mérites, t'as le maître que tu mérites, ou que t'as bien voulu évoluer avec lui.
Ah oui, qui se ressemble, se rassemble et s'assemble.
Oui, il y a des entraînements plutôt militaires, plutôt violents, puis le côté spirituel est probablement beaucoup moins présent.
Ben là, tu dois être dans une très bonne école, puisque bonne maintenant, on t'a choisi pour enseigner des techniques d'autodéfense à des femmes.
Pour l'éthique et pour la spiritualité, je te dirais. Parce que pour enseigner à des femmes, il faut...
À Montréal.
Pas... Oui, à Montréal, c'est des cours d'autodéfense. Quand j'ai commencé ça, il y a pas très longtemps après avoir commencé les arts martiaux comme tel, on m'a demandé de le faire parce que j'ai cette éthique-là que je vais pas demander un numéro de téléphone à une dame à qui je fais... Parce qu'il y a une position de pouvoir, hein, on le voit beaucoup en ce moment, là, des profs à l'UQAM, il y a toutes sortes de situations d'harcèlement. Ben c'est encore plus important dans un cours où tu donnes des cours d'autodéfense pour femmes. Au début, on le donnait dans un centre où les femmes étaient en position d'isolement, hein, dans des situations maritales ou de célibat un peu difficiles avec des enfants, tout ça. Ils étaient vulnérables. Nous, on arrive là comme des bons gars, on leur montre des techniques, tout ça, puis on a l'air de... On a eu des lettres qui disaient, à un moment donné, « Hey, on n'a jamais rencontré des hommes comme vous. » Et pourtant, moi, je me considère dans la moyenne de mes amis, on est tous du même type. Mais pour elle, c'était autre chose. Alors, si tu peux facilement profiter de ça en disant « Hey, je pense
que... » Il n'y a pas
non,
des risques des
pas,
fois
ça.
Que il y a des femmes qui tombent en amour, hein, les émotions, puis
mais
le...
Mais quand tu es pur dans tes intentions,
parce
ça
va vous toucher, hein?
Ouais. Mais quand tu es pur dans tes intentions, ça n'arrive pas, ça. Tu n'es pas sollicité. On te demande pas... Moi, je me suis fait demander une fois, j'ai une tante à te présenter, une sœur. Mais non. Non, parce que tu n'es pas là pour ça. Il y a d'autres endroits. Il y a des moments pour des choses. Puis non, je suis pas célibataire. Non, je suis pas... J'ai quand même une vie aussi. Je suis pas un pur chaste de la technique. Il y en a qui sont. Il y en a qui ne seraient pas. Il y en a qui s'entraînent énormément là-dedans.
Dans la guerre des étoiles, tu sais qu'un Jedi, je vais te lire ça, là. Un bon Jedi ne se marie pas pour ne pas être dépendant d'une autre personne. Un bon Jedi ne peut être séparé en deux personnes. Des fois, on dit « ma douce moitié ». Il n'y a pas de moitié avec un Jedi, il est complet. Puis, il y a des Jedi femmes. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des hommes chez les Jedi. Même les maîtres Jedi qui font partie du Grand Conseil, il y a des femmes. Le bon Jedi se doit de suivre la voie du centre. Et la voie du centre, ben, c'est la voie de l'artiste, évidemment.
Ah.
Il y a un rapprochement avec ce que
j'aime
tu connais.
Ben oui.
Ouais.
Je me targue d'avoir un petit côté artiste aussi. Mais moi, personnellement, dans ma vie, j'aime mieux être équilibré entre plusieurs sphères de ce que je fais. Je suis pas... J'ai pas la mission de devenir un Jedi. Il y en a qui consacrent leur vie. Notre professeur est un policier. Qui s'entraîne à longueur de journée et qui fait 3 autres cours d'arts martiaux. de tout type. Lui, c'est vraiment une machine d'entraînement. Puis il est dans la police de Montréal, il fait des manifestations, c'est lui qui contrôle. Mais d'un type de policier que tout le monde voudrait voir dans les manifestations, personne ose aller contre un gars comme ça, parce que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'être là. Personne. Quand tu dis que les Jedi sont là pour faire respecter la loi et l'ordre, là, c'est la même chose. Si tous les policiers étaient comme ce gars-là, il n'a pas à s'imposer, il n'a pas à jouer des muscles, il est juste tellement présent sur une ligne que tu ne passes pas la ligne s'il est devant toi. Parce qu'il est présent, il est là.
C'est ça. Ouais. On dit d'ailleurs qu'un bon maître, c'est pas celui qui forme de bons élèves. C'est celui qui forme de bons maîtres.
Oui, c'est bien ça.
Et qui vont même un jour le dépasser. Oui, il faut en arriver là.
Oui.
Il y a une chose dans la série La Guerre des Étoiles, c'est ce qu'on appelle les fameux midi-chloriens. Tu as dû entendre parler de ça, là, mm-hmm. l'analyse mm-hmm. du sang de oui. Anakin Skywalker dans le premier épisode de La Menace Fantôme. À un moment donné, Qui-Gon Jinn, il prend deux secondes au moment où le jeune allait pour se coucher. Puis il dit, attends une minute, je veux vérifier pour voir pour pas que tu aies d'infection dans ton sang. Il prend une prise de sang, puis il envoie téléportation là, directement. Ils analysent, puis ils disent, mon Dieu, mais c'est incroyable! 27 700 parties par million de midi-chloriens dans son sang.
Du jamais vu.
Yoda, 17 700. Alors, il y a déjà 10 000 parties par million de plus chez Anakin Skywalker, qui est tout jeune. Alors, on se dit, il est mu d'une énergie, il est en contact avec quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que les midi-chloriens? Ce sont de minuscules formes de vie microscopiques qui résident dans les cellules de tout être vivant, qui communique avec la Force. Et la Force se fait entendre par les midi-chloriens. Et là, moi, j'ai fait le rapprochement entre ce que Wilhelm Reich avait découvert il y a déjà longtemps, il est mort d'ailleurs dans les années 50, d'une crise cardiaque. C'est curieux, il est mort en 56. Il avait été mis en prison pour usage illégal de la médecine. Et lui, il avait développé une technique en rapport avec l'organe. Et il parlait, lui, des chloridiniens. Et on parle des midi-chloriens. Tu comprends-tu qu'il y a comme un clin d'œil d'un à l'autre? Et donc, Wilhelm Reich, oui, les chloridiniens, c'était des espèces de petites particules tellement petites qu'on ne peut pas les voir avec un microscope ordinaire, parce que le microscope ordinaire, comment est-ce qu'on appelle ça, optique, là, mm-hmm. il va nous permettre de grossir jusqu'à 1800 fois au gros maximum. Mais avec le microscope électronique, on le voit pas. À cause de la radiation électronique, ça tue les midi-chloriens, les chloridiniens.
Et là, les radiations les tuent. Ah oui.
Les radiations, oui, du microscope électronique. Et là, on se retrouve avec une autre découverte, qui est celle-là au Québec, qui est faite par Gaston Nassens. Tu as déjà entendu parler là, du Gaston Nassens, ici, dans les cantons de l'Est. Et il avait développé un microscope à lui, avec sa technique à lui, qui utilise la lumière incandescente, plus une lumière ultraviolette, donc les longueurs d'onde sont différentes, par phasage et un champ magnétique dans les rayons de lumière qui vont frapper la surface où il y a du sang. Il peut monter la vision à l'œil nu par le microscope qu'il a inventé, qui s'appelle le somatoscope. Okay? Il voit, lui, ce qu'il a appelé des somatides, un peu les chloridiniens de Wilhelm Reich. Les somatides qui sont des particules, je dirais peut-être 100 fois plus petites qu'un globule rouge. Donc invisibles à l'œil habituellement. Mais là, avec ça, on les voit. On voit quoi? On voit des particules vivantes qui sont dans le sang tant qu'il est vivant. Et si tu prends une prise de sang, au bout de 30 minutes, c'est mort. Ça n'existe plus, c'est desséché, c'est disparu. Et il peut comparer tout ça avec la vitalité d'une personne, ses capacités à faire face à la maladie, à l'invasion de virus, de bactéries, tout ça. On est proche de quelque chose très semblable à ce qu'on nous enseigne dans La Guerre des Étoiles. Oui. Alors, je te demande la question, Jean-François Poulain, pour être un bon Jedi, en tout cas, suivre les cours d'arts martiaux, est-ce que ça prend des prérequis physiques? Est-ce que quelqu'un, j'imagine, en chaise roulante, il n'ira pas faire des...
Ben, tu dis ça, mais on nous a présenté il y a 2 ans un monsieur qui avait passé sa ceinture noire au marron. Assez handicapé. Mm-hmm. Et je te dirais que non, donc la prédisposition physique est pas nécessairement... Bon, on s'entend, faut quand même avoir minimalement, faut être en forme.
Oui.
Ce monsieur-là avait passé peut-être sa noire à un certain niveau. Bon, mais ça, non, en fait. Puis... c'est surprenant à quel point même on a eu des gens qui venaient, puis tu sais, du genre bodybuilding, qui arrivaient des gyms et tout ça. Et ça passait pas, tout plein d'égo qu'ils étaient. Ils retournaient de bord, puis ils disaient, je vais aller faire d'autres exercices, je suis pas assez fort. Alors que la force est vraiment pas là.
Mm-hmm.
Il y a des gens là-dedans, t'as pas l'impression d'avoir une grosse musculature, mais tu sais, tout à l'heure, tu disais aussi de profiter un peu de la force de l'autre, je sais plus dans quel contexte. Ben c'est vrai, t'sais, on l'entend souvent dans les arts martiaux, faut que tu utilises la force de l'autre.
Un pour tous, touche pour un, là.
Tout à fait.
Ben oui.
Ben c'est ça, les arts martiaux. Puis, j'aimerais qu'il y ait des midi-chloriens, par contre, j'aimerais pouvoir repousser quelqu'un sans lui toucher, ça serait sympa. Mais c'est pas, on n'a pas cette partie-là, malheureusement.
Non, les midi-chloriens sont dans la matière, sont dans le corps. Mm. Tu peux pas le pousser avec les midi-chloriens.
C'est
à distance.
La force, oui.
C'est la force.
J'aimerais avoir la force, alors. Cette force-là.
Ouais, c'est ça. C'est une force qui est plus psychique, qui est plus immatérielle. Le midi-chlorien, c'est dans la matière, mais c'est infiniment petit et c'est ce qui vit en symbiose avec tout ce qui vit. Et ils se parlent entre eux autres. Autrement dit, nous, les êtres humains, on a des midi-chloriens, des somatides dans le sang, mais qui peuvent entrer en résonance, en écho, avec des animaux, peut-être avec des végétaux. Et à un certain moment donné, on se rend compte qu'on a un chant de chanter. On arrive en syntonisation, on va dire en symbiose. Dans la guerre des étoiles, ils appellent des symbiotes, parce qu'il y a une symbiose. On fait un cœur de chant qui est en harmonie. Et c'est merveilleux.
On est un peu entraîné dans les arts martiaux à ça, à sentir l'intention de l'autre. Aucun mouvement, aucune apparence de mouvement, et tu sens qu'il est sur le point de faire quelque chose. J'étais, à un moment donné, assis à côté de mon maître, mon sensei, puis je me suis dit, je vais lui donner un petit coup sur l'épaule. J'ai pas bougé. Je te jure, Richard, j'ai pas bougé. Puis il m'a dit, pense-y même pas. Il a senti mon intention.
Ouais, c'est quasiment de la magie, là, parce que dans la magie, c'est l'intention qui porte. Hein.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait dire que dans les arts martiaux, tu développes de la magie?
Je ne saurais pas comment le qualifier, cette chose-là dont je viens de te parler, là, mais c'est certain qu'il y a des perceptions de sentir quelqu'un qui arrive dans ton dos. Ça fait un peu ninja, hein. Mais oui, on a ça, on a ce petit côté-là qu'on sent, qu'on développe, cette perception-là qui tient un peu du yoga, si on veut, mais difficile à définir, mais oui, je te dirais qu'il y a un petit côté qu'on pourrait définir comme magique pour quelqu'un qui fait pas ce genre de choses-là, qui a pas pris la peine sur 8, 9 ans, 10 ans, 20 ans de développer ça. Peut-être que ça peut sembler de la magie. Moi, je pense pas. Je pense que c'est de la persévérance dans ce que tu fais pour développer ce que tu es. Là.
On dit que pour être un bon Jedi, ça prend trois qualités de base. La constitution physique, être en santé et bien bâti. En santé, ça veut dire maintenir son équilibre en santé, et surtout être bien bâti, là. Avoir une certaine forme de musculature et d'énergie. Ouais. La deuxième, c'est la sagesse. C'est la mesure de l'illumination et de la volonté. Tu veux que ta volonté soit faite et qu'elle soit illuminée de lumière, justement, pas
tout
de dark side. Et la troisième qui vient après les deux premières, là, constitution, sagesse, la troisième qui est l'intelligence. Le raisonnement et la mémoire, c'est pour être après. C'est pas essentiel au départ. Ben, ça fait partie des trois qualités de base.
Absolument.
C'est sûr.
Tout à fait réminiscent de ce qu'on vit dans les arts martiaux.
Moi, j'ai l'impression que en sortant d'un dojo, d'une école de judo, de karaté, il y a des jeunes qui, peut-être malheureusement, risquent de vouloir imposer leur volonté aux autres de manière peut-être agressive, et on va se reparler de ça après la pause. La discipline, et j'en arriverai à dire l'éthique. À tantôt. Et oui, nous sommes toujours dans l'atmosphère de la guerre des étoiles, Star Wars. Et ça a marqué plus qu'une génération, j'ai l'impression. Jean-François Poulin, qui est avec moi, qui est dans le monde des arts martiaux, je l'ai invité parce qu'il y a un rapprochement à faire avec, évidemment, l'école Jedi, les Jedi, la chevalerie Jedi, les chevaliers Jedi. C'est un art. Et il y a un sujet qu'on n'a pas traité vraiment en profondeur, c'est les pouvoirs psy. parce que les Jedi semblent avoir des pouvoirs psy. Quels sont les fameux pouvoirs psy? On va parler de la télépathie, évidemment. Ils sont capables d'entendre des sons très très loin, ils les entendent plus fort. La psychokinésie, c'est-à-dire d'agir sur les déplacements de la matière. On les a vus dans certains épisodes où ils vont aller attirer à eux l'épée laser dans leurs mains. Le psychométabolisme, c'est-à-dire dans des endroits très chauds, ils vont être capables de pas cuire, et dans des endroits très froids, ils vont être capables de dégager une chaleur dans leur corps. Les Tibétains appellent ça le tumo. Angulpa, c'est la capacité de se déplacer extrêmement rapidement, à peine toucher le sol, la pointe des pieds. Alors, les fameux pouvoirs psioniques, Jean-François Poulain,
oui,
un autre de tes dada, de tes intérêts, de longue, longue date, celui-là.
De longue date, oui, je m'en défends un peu.
C'est un mot, un terme qui a été créé pour la série Donjons et Dragons.
Ouais.
Et donc, tu as déjà navigué dans cet univers?
Absolument, cet univers démoniaque hein, qu'on nous disait quand on était adolescent. Attention, il y a des jeunes qui se suicident avec ça. Là.
Oui, il y a même des formules là-dedans, même en latin, là, qui sont vraiment les formules d'incantation pour appeler des démons, pour appeler etc. Et tu as joué à ça longtemps?
Ah oui, tout mon secondaire. Ça a eu une bonne influence dans mon cas quand même. On a pu apprendre l'anglais parce que dans ce temps-là, on n'était pas autant noyés dans la culture américaine. Un peu, oui, mais... Ben, ça m'a permis d'apprendre l'anglais comme il faut, mais en même temps, ça arrivait encore une fois à peu près en même temps où j'ai commencé à écouter Richard Lenn sur l'ésotérisme expérimental.
Là, mais là, c'est avant tes cours d'arts martiaux.
Bien avant. Moi, j'ai commencé ça à 36-37 ans, les arts martiaux. Là.
Ah oui, OK.
Après, ouais.
Donc, après t'être intéressé, j'allais dire, au côté psy, parce que là, dans Donjons et Dragons, il n'y a pas d'exercice physique. Là. Ça se passe sur une table.
Oui,
explique-nous dans deux secondes comment ça se passe, parce qu'il faudra te recevoir à nouveau pour parler de cette
expérience. Juste de Donjons
et Dragons. Ah, oui. Ben oui. Hein?
Ben, c'était, moi, j'étais le maître du jeu. Hein? J'étais celui qui, derrière, je ne sais pas si on l'avait vu, même dans E.T., je ne sais pas si tu te rappelles, dans E.T., il y avait les gens qui jouaient à ça.
Oui.
Puis tu es derrière un petit panneau de feuilles, puis derrière, tu as toutes tes formules.
Un petit paravent, là, ouais.
Tous les chiffres qui permettaient de. Parce que c'était pas un jeu vidéo, donc ça prenait des règles. Les règles tenaient dans les livres qu'on a devant nous en ce moment. On pouvait établir un certain. Choix, par exemple, si on disait « Ah, ben moi, je saute une montagne, je saute une crevasse d'un côté à l'autre », ben pour l'établir, si tu réussissais, ben il te disait « Moi, je disais, parce que j'étais le maître de cet univers-là, tu prends le dé à 20 faces, tu tournes, mais si ça passe au-dessus de 18 à 20 sur le dé à 20 faces, ben tu passes. » Donc, il y avait ce petit côté de...
Don pour voir, on va entendre le dé.
Des bons vieux dés, on avait des dés à 8 faces, des dés à 4 faces, un petit dé pyramidal, ésotérique aussi, si on veut. Dés à 8, dés à 6,
c'est les standards. Tétraède.
Ouais. Donc, c'est avec ça qu'on établissait un petit peu un élément qui empêchait, moi, le maître du jeu, d'aller trop loin dans mes choix. Là.
Ah, maître Jedi ou maître d'un jeu. Ben voilà. Oui, c'est ça. Et ça a quand même formé quelque chose en toi qui t'a préparé et disposé à aller dans les arts martiaux physiques, là.
Je sais pas, moi, mon cheminement complet de vie passe à travers plein de choses. C'est toujours avec Richard Glenn en arrière, je me demande pourquoi.
Oui.
Mais à travers ça, ben oui, c'est sûr que là-dedans, c'était fou parce qu'on se rendait pas compte à quel point on nous parlait de la culture des druides. Hein. Il y a même un personnage, pas un personnage, mais un type de personnage que tu pouvais adopter qui était un druide. Les démons, les anges, les dieux, on voyait tous les arcanes là-dedans. C'était fascinant parce qu'ils utilisaient tout ce qui avait été fait au Moyen-Âge et plus loin encore pour élaborer un monde mystérieux, un peu genre Seigneur des Anneaux, on s'entend. Mais tout ça, oui, nous permettait d'utiliser notre imagination aussi.
Ah oui.
C'était purement de l'imagination.
Vous savez qu'Albert Einstein avait déjà dit l'imagination est plus importante que la connaissance.
Ah, ben tiens, j'adhère. Je suis content. Oui.
Et on peut dire, puisqu'on parle de la guerre des étoiles, que le fameux Yoda, le petit personnage, là, le petit sage, les yeux de Yoda ont été pris sur le portrait de Einstein. Albert Einstein, ses yeux, on les retrouve sur Yoda.
Ah oui.
C'est le même regard, les mêmes yeux. Oui. Et oui, alors c'est tout un univers. Hein. Palpatine, ben là, il faut faire attention parce que Palpatine, tout le monde l'a découvert. Il ressemblait 20 ans avant exactement à Joseph Ratzinger.
Oui, c'est
et
vrai.
Joseph Ratzinger est devenu le pape catholique Benoît XVI.
Et ça fait le tour d'Internet, hein, quand c'est arrivé. Là,
je pense que ça n'a pas dû y aider.
Non, pas vraiment.
Monter ça, tellement qu'il a démissionné avant même d'être décédé. C'est la première fois qu'on peut dire que le pape démissionne.
Ouais.
Et parce que sa popularité était à zéro, même à cause de... Écoute, il était le portrait de... L'empereur.
ça donnait pas une bonne impression. Mais tu parlais des pouvoirs psioniques, c'était, oui, un des aspects dans Donjons et Dragons. Principalement, le monde de Donjons et Dragons était basé sur la magie. Mais parallèlement à ça, il y avait un module à la fin du livre qui était sur les pouvoirs psioniques. Ouais. Puis c'est drôle parce que on l'incluait pas, nous, dans le jeu. Nous, personnellement, dans notre groupe à nous, c'était trop puissant. Il y avait déjà la magie qui faisait qu'un magicien par rapport à un guerrier ou autre devenait incommensurablement trop puissant quelque part dans le jeu. Si en plus il y avait des pouvoirs psioniques, ça débalançait complètement le pouvoir et la façon dont le jeu se jouait. Donc ouais, on ne l'avait pas utilisé du tout, nous.
C'est ça, utiliser des pouvoirs psy, c'est comme être outsider, là, être un étranger aux autres, comme le royaume n'est pas de ce monde.
Oui.
Tu sais, ils vivent, on parlait la semaine dernière, on parlait de métapsychologie, métapsy, psionique. Psy, des pouvoirs psy. Et à ça, là, tu parles de magie. Ben oui, mais à la même époque que Star Wars, il est arrivé une autre saga au cinéma, c'est Harry Potter. Et l'école des sorciers. Là, c'était l'école des sorciers. C'est pas tout à fait la même chose, là. C'est pas un art, ça, là. La sorcellerie, c'est pas un art. La magie, oui, on peut la mettre dans la catégorie. Ah, oui. Parce que dans la magie, l'âme agit, et l'âme, c'est la psyché. Donc le côté psy revient. Mais le sorcier, lui, la grande différence avec un magicien qui utilise des pouvoirs psy, c'est que le sorcier a besoin d'avoir des artefacts. Baguette magique, poudre pour ensorceler, le balai volant.
Oui.
On voit que...
Chacune des formules magiques là-dedans avait ses ingrédients. Tout est décrit dans ces livres-là.
En détail.
En détail. Ouais, type d'ingrédients tu avais besoin.
Et un peu comme à Harry Potter, finalement. Ouais. Hein, tu avais vraiment comme l'enseignement de ce qu'on trouve à l'école de Poudlard.
Ouais.
Et puis, encore une fois, chez Poudlard, on en reparlera aussi. Il y a tellement de sujets ésotériques qui rejoignent l'actualité de tout le monde et qui nous intéressent parce que c'est dans une manière de vivre, un art de vivre. On le dit même, c'est un art, vivre.
Oui.
Alors, le mieux-être qu'on propose ici à cette station de radio, c'est la station du mieux-être. Mais oui, c'est un art de vivre bénéfique à tous et par toutes sortes de chemins. On disait autrefois par quatre chemins, comme disait Jacques Languérin. Mais la voie du centre, c'est la voie de l'art, de l'artiste. Et là, à ce moment-ci, je suggérerais évidemment d'aller dans le domaine de... Il y a Geneviève qui nous montre ici le livre de Jacques Languérin qui s'appelle Le cinquième chemin, qui vient d'être publié, qui va être certainement en vedette au prochain salon du livre de Montréal.
Peut-être qu'il va y être, d'ailleurs.
Ben oui, sans doute, oui. Ben, je vais essayer de le retrouver et puis peut-être de l'interviewer un petit peu pour le faire entendre ici.
Quelqu'un qui l'a vu lors de son passage, je ne sais plus à quel événement dernièrement, disait qu'il n'avait pas le choix d'être dans le présent. Ça lui plaisait quand même, puis il était quand même capable de trouver son plaisir là-dedans, mais il vivait dans le présent parce que déjà des petits trous dans sa mémoire ou dans sa continuité temporelle, il est obligé de vivre le présent avec les gens qui sont devant lui.
C'est génial. Alors, il faut savoir que justement, le sorcier agit sur le futur, une intention qu'il va projeter dans l'espace et dans le temps, au loin. Il va essayer de contrôler des choses à distance. Alors que le Jedi est dans... plus que le moment présent, et dans l'instantanéité du moment présent.
Ça, c'est les arts martiaux.
Exactement. Hein?
Oui.
Et on ne peut pas dire comment tu vas réagir. Tu vas réagir au moment, à la fraction de seconde où tu vas décider de prendre telle attitude.
Tout à fait.
Oui. Hein?
C'est au moment où tu penses, tu as perdu. Tu t'es déjà fait frapper par l'autre, tu n'es déjà plus dans le combat. Là. Il faut que tu sois vide, mais en même temps plein de tout ce que tu sais. Tu vis là et maintenant.
C'est un bel enseignement à l'école Jedi. Hein?
Ouais.
Et on peut dire que toi, tu as trouvé le chemin de réaliser ce qui était pour plusieurs de la fiction, et c'est de la réalité. Et aujourd'hui, tu aides des femmes à faire face à l'adversité, à la menace. Mmh. Et dans ces exercices-là, il y a des touchés quand même.
Et, sur demande, hein, c'est vraiment, il y a un grand respect, il y a une éthique dans ce qu'on fait qui est très importante. Si quelqu'un nous dit, on montre sur des saisies de main, par exemple, quelque chose qui pourrait être la base d'une agression, elles peuvent l'expérimenter avec les femmes qui sont instructrices avec nous.
Ah bon?
Ou si elles veulent avoir un feeling d'une grosse main, là, puis du poids qui vient derrière, elles peuvent nous le demander, mais on n'offre pas. On l'offre une fois, puis après ça, c'est à elles de venir nous voir avec ça.
Ben voilà, c'était encore une belle rencontre avec un bon invité qui s'appelle Jean-François Poulin, qu'on retrouve tous les samedis soirs au Vidéorandia, des fois en personne, comme samedi prochain, ou par Skype. Tu es toujours là, présent au poste. C'est toi qui as lancé l'idée de ça il y a déjà trois ans. Ouais. Hein, oui, c'est ça. Et puis, je rappelle encore aux gens que la saga Star Wars, on va encore avoir la fièvre de la guerre des étoiles dans pas longtemps, puisqu'en 2015, il va y avoir un septième épisode. avec une femme qui va être Jedi.
On l'attend. Ouais. Pas la femme, mais on l'attend le septième, enfin les deux.
Et ça va remettre sans doute à la mode les premiers épisodes, les six premiers épisodes qu'on peut retrouver en DVD.
Plusieurs personnages reviennent, Han Solo va être là, la princesse Leia va être là, c'est à leur âge actuel. Donc ça va être intéressant.
Les couleurs des rayons laser, des sabres laser, ils correspondent finalement à le bleu pour le mystique, le vert pour le religieux qui a une vérité à défendre et à prouver,
le
jaune pour le scientifique, le rouge pour le guerrier, le rouge, le feu, le rouge de sang. Et entre le rouge et le bleu mystique, curieusement, là, on se retrouve à être un extrême guerrier là, violent. On l'a vu, le sabre au laser de Darth Vader, ben oui. Il est rouge.
Ah, il est rouge, voilà.
Ben oui. Alors, puis Luke Skywalker, lui, il était vert. Obi-Wan Kenobi, il était vert. La couleur du choix, la couleur qui émane de la main de celui qui tient son sabre au laser correspond un peu à son type d'énergie, à sa voix, à son chemin. Et le blanc, ben, c'est la voix du milieu. Et pour ça, il faut que tu sois, comme tu disais, parfaitement limpide, blanc. Alors, j'en profite aussi pour rappeler aux gens qu'il y a le site d'ésotérisme expérimental avec Richard Glenn qui est sur Internet, qui s'appelle ésotérisme-exp.com. Mais c'est plus simple que ça. Vous allez sur Google, vous écrivez tout simplement « ésotérisme » et vous allez découvrir que ésotérisme expérimental est un des sites les plus écoutés, les plus suivis de par le monde. C'est tout un univers dans lequel vous êtes entré avec ésotérisme expérimental. Je sais pas si ça va te rappeler un peu le bon vieux temps de Richard Glenn sur le câble, mais il y a tout un univers derrière tout ça. Hein?
Oui, absolument.
Alors, on peut pas se quitter sans utiliser la formule officielle de la guerre des étoiles. Que la force soit avec toi et avec tout le monde. Et toi, tu dis qu'il y a une formule...
Bon, la formule, c'est le remerciement à la fin du cours. C'est Domo Arigato, merci beaucoup. Gozaimasu, qui fait partie du merci beaucoup. Merci de beaucoup, Gozaimasu.
C'est un rendez-vous la semaine prochaine où on va continuer dans cette voie de le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux par après. D'abord, connais-toi toi-même. Bonne semaine.